Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Cette émission vous est présentée sans sponsor ni publicité grâce aux auditeurs qui choisissent de la soutenir financièrement pour le montant et la durée qu'ils souhaitent. Aujourd'hui, j'aimerais remercier tout particulièrement Alan Patricio Savigliano, Mourad Baba Aïssi, Julien Benamias, Jérémy Cucheval, Geek Daddy, Maxime Girardot, Thomas Leplus, Clément Cohen, Trog Trofort et Marine Seb. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume toute l'actualité tech, internet et gadgets toutes les semaines. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui on a des sujets hyper intéressants et importants dont on va vous parler. On a le premier accident avec un véhicule autonome qui a fait un petit peu de bruit forcément. Hein. On va vous détailler ce qui s'est passé et ce que ça pourrait vouloir dire. On a les suites de l'affaire Cambridge Analytica dont on vous avait déjà parlé la semaine dernière, donc on va pas non plus détailler toute l'origine de l'histoire, mais plutôt ce qui s'est passé depuis une semaine, et il s'est passé énormément de choses. Et puis on a aussi des sujets sur ce que va pouvoir annoncer Apple aujourd'hui, donc peut-être que ça sera, on pourra vous pourrez savoir si on s'est trompé ou pas. Et on a aussi Foxconn qui va commencer à faire des produits pour les consommateurs. On a des sociétés qui rentrent en bourse. On a des taxes qui sont implémentées, plein de petites choses dont on va vous parler. Comme je le disais, je suis Patrick Béja et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir une personne que je n'avais pas reçue depuis un bon moment et qui nous arrive en direct du Japon. Il a pris l'avion spécialement pour pouvoir être présent dans l'émission, hein, parce que Internet, c'est pas forcément, ça marche pas bien. Au Japon. Comment ça va, Ben? Tu es juste tout fraîchement débarqué de l'avion du Japon?
Oui,
j'ai pas dit ton nom, pardon. Benoît Curdy, qui nous rejoint de Nipcast alias slash Niptech. Ça va, Ben?
Ouais, très bien. Écoute, effectivement, je suis arrivé hier dans la nuit du Japon, une semaine là-bas, où j'ai été pour Japan Drone Expo, entre autres. J'ai pu rencontrer pas mal de gens sympas, c'était excellent. J'avais bien sûr lu ton blog post avant, où tu expliques ce qu'il faut voir au Japon, donc c'était très chouette.
Très bien. Je suis horriblement jaloux, hein, que tu sais, le Japon, c'est l'un de mes pays dont je suis complètement amoureux, donc à chaque fois que quelqu'un y va, moi, je suis complètement perclus de jalousie.
Il y a de quoi. Je trouve, tu sais, un truc que tu disais qui est très vrai, c'est que à la fois, on se sent pas du tout perdu à Tokyo. C'est impossible de se sentir comme ça désorienté. Mais en même temps, il y a une autre couche où on comprend rien. et tout est grand, mais tout est petit. Enfin, il y a beaucoup de contrastes comme ça. Donc, j'ai adoré et je me réjouis de retourner. Et puis, alors, le sens du service, sincèrement, en Europe, on a pas mal de trucs à apprendre. Donc voilà, bref, vraiment beaucoup de contrastes, beaucoup de plaisir. Et comme je l'ai dit, je me réjouis de découvrir peut-être d'autres parties du pays un de ces jours.
Oui, t'étais à Tokyo, hein, c'est ça?
Oui, uniquement, ouais.
D'accord, Chiba, oui. Juste à côté, ouais. D'accord, oui, à Chiba, c'est au nord, à côté du Makuhari Messe, non? C'était là-bas ton expo?
Voilà, exactement.
Voilà, on connaît. Bon, peut-être qu'il faudra faire un épisode sur le Japon un jour, ça serait intéressant. Mais aujourd'hui, on va vous parler plutôt d'abord de l'accident de voiture autonome dont a été victime une piétonne il y a une petite semaine de ça. Et c'était une voiture autonome Uber. Et avant de vous donner tous les détails, je vais redonner du coup la parole à Benoît, puisque tu m'expliquais avant l'émission que ton travail est connexe à tout ce qui est autonome. l'autonomie dans les véhicules. Et donc, c'est un sujet que tu connais relativement bien. Tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais, juste pour qu'on ait un peu de contexte?
Ouais, je suis secrétaire général d'une association qui s'appelle la Global UTM Association. Alors, UTM, ça veut dire Unmanned Traffic Management, donc la gestion du trafic autonome ou en tout cas sans personnes. Et du coup, on s'intéresse évidemment énormément à toutes ces questions, hein, qui sont les mêmes questions qu'on soit dans l'air ou sur Terre, principalement au niveau de quelle infrastructure faut-il pour pouvoir avoir des opérations qui soient à la fois sûr et aussi efficace. Disons, on veut que ça reste accessible au niveau économique. Donc, évidemment, il y a une tension à ce niveau-là. Il faut trouver le bon équilibre. Et j'ai donc, évidemment, on a beaucoup commenté aussi là-bas au Japon cet accident mortel. C'est le premier accident mortel, pas le premier accident tout court. Il y a eu pas mal d'autres accidents. Et puis, ben voilà, je trouverais intéressant de donner le point de vue peut-être aussi qu'on a dans l'industrie par rapport à quelque chose comme ça.
Alors justement, oui, merci de m'avoir corrigé, c'est le premier accident mortel, tout à fait, et c'est un petit peu au-delà de l'aspect tragique de la chose, qui est évidemment pas à minimiser, puisqu'il y a une personne qui a perdu sa vie. Il y a aussi une énorme ébullition de discussions et d'intérêts qui se forment autour de cet accident, puisque depuis des années, on savait qu'il y allait un jour y avoir un accident mortel, certainement, où un véhicule autonome serait impliqué. La question de la responsabilité allait se poser, justement, de la responsabilité du véhicule lui-même, de l'algorithme qui le fait fonctionner, du constructeur, du conducteur, etc., etc. Donc, c'est tout un maelstrom d'intérêts, de questionnements qui se coalescent autour de ce sujet. Alors, je vais vous donner un petit peu la timeline, la manière dont ont évolué les choses dans cet incident, parce que vous en avez peut-être entendu parler, et il y a des informations un petit peu contradictoires. Ce qui s'est passé donc dans la ville de Tempe en Arizona, il y a un véhicule Uber qui a percuté un véhicule autonome Uber qui a percuté une piétonne qui traversait la rue. C'était une rue relativement, c'était pas non plus une autoroute, bien sûr, mais elle traversait avec un vélo et c'était pendant la nuit. Donc il y avait beaucoup de questions sur est-ce que le conducteur aurait pu éviter la piétonne, et d'autre part est-ce que la voiture aurait pu éviter la piétonne. Alors, ce qui s'est passé, c'est que les conclusions préliminaires de l'enquête de la responsable de la police qui commentait sur la chose étaient que l'accident n'était pas évitable, voiture autonome ou pas voiture autonome. C'est-à-dire qu'un conducteur n'aurait pas pu l'éviter et la voiture autonome n'aurait pas pu l'éviter non plus. Ça, c'était la première conclusion de préliminaire de l'enquête. Donc, c'était vraiment préliminaire. Et donc, on s'est dit, bon, visiblement, peut-être que la responsabilité ni de la voiture ni du constructeur n'était pas engagée. Ce qui s'est passé depuis, dans les jours qui ont suivi, c'est que les vidéos de d'enregistrement de contrôle du véhicule ont été rendus publics. Alors on a une vidéo de la caméra frontale qui filme jusqu'à au moment de l'impact, juste avant l'impact, et on a la vidéo intérieure du véhicule qui filme donc le conducteur. Et on a on va dire 10 secondes avant l'impact. Et à partir de là, quand officiellement ces documents ont été rendus publics, il y a un certain nombre d'experts en véhicules autonomes, bien sûr, qui sont penchés sur le sujet et qui ont, suite aux observations qu'ils ont pu faire et aux connaissances et à l'expérience qu'ils ont sur ces véhicules, ils ont été amenés à des conclusions qui étaient clairement en contradiction avec les conclusions préliminaires de la policière, de la commissaire qui enquêtait sur la chose. Et en gros, ce que disaient les experts, c'était... Ça paraît quand même bizarre parce que vu la configuration, vu la manière dont la personne apparaissait sur les images, le véhicule, ou en tout cas le LiDAR, le radar laser dont sont équipés tous ces véhicules autonomes, aurait dû la détecter, et même si l'accident n'aurait pas pu être évité à 100%, au moins activer les freins. Et là, on voit sur les images que le frein n'a pas du tout été activé. Donc, la question semble se porter non pas sur est-ce que le conducteur, s'il avait été un conducteur sans véhicule autonome, est-ce qu'il aurait pu éviter l'accident ? A priori, la discussion n'a pas vraiment lieu et il semblerait que ça aurait été au moins très difficile à éviter, cet accident, dans un véhicule non autonome, un véhicule classique. Donc le conducteur n'aurait peut-être pas eu le temps. Par contre, la question qui se pose, c'est est-ce que le véhicule lui-même, autonome, grâce à son LiDAR qui n'a pas grand-chose à faire du niveau de luminosité de la scène, ce qu'il fasse jour ou nuit, ça lui importe peu. Donc, est-ce que ce LiDAR n'aurait pas dû détecter le piéton et donc au moins alerter le conducteur et également au moins, je pense, activer les freins et donc au moins essayer d'éviter l'accident. Suite à ça, le gouverneur de l'Arizona a suspendu les tests de voitures autonomes dans l'État entier. Il dit que l'accident d'Uber était une faute, très certainement une faute, enfin une faute ou du moins un échec de la technologie en question. Et il faut noter aussi que Uber a et beaucoup d'autres font ces tests en Arizona parce que les lois en Arizona étaient quand même relativement laxes pour permettre le développement des véhicules autonomes. Donc ça, c'est le contexte, l'historique de ce qui s'est passé. D'une part, est-ce que j'ai fait des erreurs ou il y a des corrections à faire dans mon récit, Ben? Et d'autre part, de votre côté de l'industrie, comment est-ce qu'on a approché la chose? Est-ce qu'on s'y attendait? Est-ce qu'on avait peur que ça arrive? Est-ce qu'on est dis-moi ce que vous en pensez.
Ouais, très bonne description de ce qui s'est passé effectivement. Alors c'est vrai que la grosse question, disons, c'est il y a deux choses. Hein. Le côté technique, comme tu l'as dit, tout ce qui tourne autour de LiDAR, radar et des autres systèmes embarqués. Et puis, le facteur humain. Alors peut-être juste pour revenir sur le facteur humain d'abord, ce qu'on voit, hein, nous, comme on dirait ça, c'est que ben il y a quelque chose d'inattendu qui se passe, hein, un piéton qui passe, qui se met en danger, qui regarde pas lui-même. Donc là, on a une situation dangereuse. Et puis on a un seul conducteur dans la voiture. Typiquement, Waymo utilise deux conducteurs parce que on sait que
Waymo,
c'est
la société de Google, la voiture autonome, ouais, de Google, oui.
C'est à peu près impossible de demander à quelqu'un qui conduit pendant des heures de rester concentré tout le temps sur la route. On peut mettre un humain si on veut, mais au final, est-ce que c'est vraiment utile? Je sais pas. Justement parce que c'est tellement répétitif que si on n'a pas des mesures supplémentaires de sécurité, c'est presque injuste de demander à un être humain de pouvoir réagir en si peu de temps. Donc là, on voit pourquoi il y a
d'autant plus. D'autant plus que dans le véhicule autonome, bah, l'idée c'est que tu es autonome. Donc on le voit d'ailleurs dans les images. Juste avant l'accident, il regarde un petit peu son téléphone ou il regarde quelque chose sur le côté. Dans la voiture autonome, forcément, tu vas pas être. Enfin, peut-être qu'il faudrait, mais tu vas pas être concentré 100% du temps comme si tu l'étais si tu conduisais.
Impossible, c'est absolument impossible. On peut dire, c'est vrai, on peut mettre qui on veut dans la voiture. Après 5 heures où tout est tout seul, où tout va là, d'un coup, on a 2 secondes pour réagir. C'est juste pas. Alors voilà, si on est deux, qu'on peut reprendre le contact, on peut s'entraider, disons, à rester concentré, etc. Après, on ne sait pas. Peut-être que Uber, ils roulent pendant 25 minutes, ils font 10 minutes de pause, ils roulent 25 minutes. Donc c'est possible. Il y a peut-être des moyens autour. Là, il faudrait en savoir plus. Mais moi, je pense pas. Je pense qu'ils roulent pendant plusieurs heures sans s'arrêter. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même une des choses à mettre en place où je pense que peut-être il y aura des lois un peu plus restrictives en termes de comment on fait on gère le risque. Et puis la deuxième question, effectivement, c'est le LiDAR. Donc On sait que le problème, c'est la pluie. Hein. S'il pleut, on a beaucoup de bruit, disons, qui arrive et les algorithmes sont moins efficaces.
De bruit vidéo, oui. De ouais, bruit voilà, dans les images captées par le, par le radar.
Oui, exactement. Ouais. Ouais. Exactement, du bruit pour lui. Ouais. Donc, le signal est plus faible. Mais la question ici, c'est de savoir si finalement, il n'y a pas eu de détection du tout, auquel cas c'est un problème de matériel, ou bien s'il y a eu une détection, mais que l'algorithme a dit « bon, ben c'est OK, je vois rien de spécial là-dedans », parce que ben il faut voir que quand on est dans une rue, ça bouge partout, il y a des piétons à gauche, à droite, il y a des trucs qui peuvent voler, enfin, si on s'arrête à chaque fois qu'il y a quelque chose qui bouge, ben, simplement, on n'avance plus. Donc la question, c'est de voir est-ce que finalement l'algorithme, parce que c'était pas un endroit où on était censé traverser, c'était une route où il s'attendait pas à ce qu'il y ait ce genre d'activité, peut-être agit d'une façon différente que s'il est en pleine ville. Donc je pense que ça va être vraiment dans ce type de questions qu'on va devoir se pencher. Ça va devenir assez pointu, hein. Et les seuls à pouvoir répondre, c'est Uber, parce que même si on donne les données à la police telle quelle, qu'est-ce qu'ils peuvent en faire? Ils savent pas comment ça a été traité. Donc, c'est pas très utile d'avoir les données pures à ce moment-là, donc directement l'enregistrement du LIDAR. Donc, ça va, à mon avis, ça va prendre pas mal de temps pour être décidé. Et puis, la question, effectivement, ça va être de déterminer la chaîne de responsabilité. Et là, il fallait que ça arrive. Et je pense qu'on aura un procès qui va s'étendre sur plusieurs mois, plusieurs années.
Ouais, et justement, la question de la technique et de la responsabilité se pose d'autant plus avec Uber, qui, bon, on en a parlé des dizaines, des centaines de fois dans l'émission. On sait que jusqu'au changement de CEO, de président, en tout cas, ils étaient pour le moins, pas très à cheval sur la responsabilité dans la manière dont ils développent leurs actions. Ouais. On sait qu'ils ont eu tu disais qu'il y a effectivement eu d'autres accidents qui n'étaient pas mortels, et on sait que Uber a un taux d'incidents beaucoup plus élevé que les autres constructeurs qui font des tests, notamment Waymo. On est à un taux d'incidents qui est vraiment de l'ordre de 100 fois plus élevé chez Uber. Alors des incidents qui sont pas des incidents graves, mais ça veut peut-être dire quelque chose sur la manière dont ils gèrent leurs affaires. Et puis, il y a aussi une autre interrogation qui peut venir si on est un petit peu complotiste, c'est que Uber, son modèle d'affaires est entièrement basé finalement sur il y a beaucoup d'analystes qui pensent que Uber ne peut pas simplement être rentable s'ils doivent payer des conducteurs sur le long terme. Aujourd'hui, ils dépensent énormément d'argent de leurs investisseurs, plusieurs dizaines de pourcents de l'argent qui est engagé, c'est pas des bénéfices, c'est de l'argent qu'ils brûlent de leurs investissements. Et du coup, ils ont besoin que les voitures autonomes soient opérationnelles aussi vite que possible. Donc, on peut, alors là, on n'a pas du tout de preuves ou pas encore, on peut se demander s'ils n'ont pas essayé de prendre des raccourcis un petit peu dangereux pour activer les choses plus vite, quoi. Est-ce que c'est une surprise que c'est à Uber que ça arrive? Encore une fois, là, on ne sait pas. Il faudra voir il faudra que l'enquête se soit menée comme il faut. Mais toutes ces questions se posent, en tout cas.
Clairement, clairement. Je pense que effectivement, il faut voir les soins mis dans les scénarios, parce que évidemment, on va pas faire rouler ces voitures n'importe comment. Il y a des choses qu'on veut tester, des choses qu'on veut comprendre. Donc, il faudra voir exactement qu'est-ce qu'ils essayaient de faire aussi. Ça va être intéressant. Il y a un lien qu'on a aussi pas mal discuté ces derniers temps, c'est ce que veut faire justement Travis Kalanick. Tu sais qu'il a, je sais pas si tu en as parlé dans une autre émission, mais il a racheté donc cette société. Et puis c'est vrai que le but finalement d'en faire des espaces, donc il a racheté une société qui fait de l'immobilier, hein. Et le but de racheter ces espaces, ça peut être justement pour amener ces véhicules autonomes qu'ils soient volants ou pas, hein. Donc de nouveau, faut penser qu'on va aussi avoir des véhicules autonomes volants qui vont arriver dans les villes. Il faudra avoir des espaces urbains où on peut les faire atterrir, les faire se poser, les avoir des services, etc.
Il a racheté effectivement une société qui gère ces espaces urbains, qui rachète des vieux parkings, des vieux et qui les reconditionne pour d'autres usages, notamment la gestion de peut-être espaces nécessaires au parc de véhicules autonomes, oui.
Ouais, exactement. Donc ça, je pense que c'est aussi quelque chose d'intéressant en lien avec ce besoin de l'autonomie, c'est qu'il va falloir avoir des endroits comme ça. Moi, je pense pas typiquement qu'on va pouvoir juste laisser les véhicules autonomes se parquer n'importe où, etc. Disons, on va créer plus de problèmes. Donc ça peut être aussi, à mon avis, c'est quelque chose d'intéressant à suivre, et surtout de voir comment ils vont commencer à équiper ces nouveaux espaces. Donc ça va vaudra la Mais peine coup, de vraiment avoir un œil dessus. Ouais.
Du coup, et on va conclure là-dessus, pour revenir à cet incident effectivement spécifique, du côté de l'industrie, par rapport au grand public, est-ce que vous vous dites « Ah merde, ça y est, c'est arrivé, on va se faire taper dessus, est-ce que personne va comprendre ce qui se passe, mais en fait, on n'est pas forcément responsable ?» Ou est-ce que, tu vois, de votre côté, comment les gens appréhendent cet événement dont on savait qu'il allait arriver, mais qui peut quand même faire peur si c'est mal compris, si c'est mal géré. Et puis en même temps, là, il y a Uber qui est dans l'eau et peut-être qu'ils sont responsables aussi. Donc comment vous le percevez ?
Ouais, alors bon, moi je suis plutôt dans ce qui est volant, hein, mais ça va arriver un jour ou l'autre, un drone va tomber sur la tête de quelqu'un et puis ça va également conduire à un décès. De toute façon, l'histoire, si on regarde l'histoire de l'aviation, l'histoire des transports en général, ça a toujours été une série de réactions à des accidents mortels. Que ce soit les ronds-points, les ceintures de sécurité ou tous les systèmes qu'on a maintenant dans l'aviation, on a été vers de plus en plus de sécurité au fur et à mesure, vers des certifications, etc. Donc, c'est malheureusement la seule façon d'apprendre, eh bien, c'est de le faire et de faire des erreurs. Donc, on s'attend à ce genre de choses. Ça fait partie du business model. Alors évidemment, c'est pas le but. Hein, on se comprend bien. On est d'accord. Mais on sait que c'est comme ça que ça se passe. Donc là, on va avoir probablement des lois, des restrictions. Mais au final, on va aller vers plus de sécurité et donc un marché qui va quand même s'ouvrir.
Moi, tu dis ça fait partie du business model. Je pense que certains pourraient y voir un petit peu de cynisme. Moi, je dirais ça fait partie du progrès, quoi, de l'évolution de la technologie. On avance, on fait des erreurs, et puis c'est normal. C'est comme ça qu'on peut s'améliorer. C'est bon.
Je pense que l'aviation, c'est vraiment le meilleur point de comparaison. Oui. Si on regarde maintenant à quel point c'est incroyablement sûr d'être en avion par rapport au glorieux début, et c'est pas si longtemps que ça. On parle pas de centaines d'années, hein, on parle en dizaines d'années. Donc, mais effectivement, il y a eu des accidents, et etc. Et c'était effectivement sans cynisme, mais c'est juste, moi, je trouve que c'est formidable comment on arrive à apprendre de ses erreurs. Une chose importante, par contre, que l'aviation a fait très très bien et que je souhaite voir plus pour les voitures et pour les drones, c'est le partage des données. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose comme ça, j'attends d'Uber qu'il soit extrêmement transparent sur ce qui s'est passé. Parce que s'il ne partage pas, on n'apprend pas et la mort d'après, on aurait pu l'éviter.
D'accord. Effectivement, assez intéressant comme réflexion. Espérons qu'Uber livre ses données brutes finalement pour que tout le monde puisse les analyser et les disséquer. Bon, pour la suite, on va reparler de l'affaire Cambridge Analytica, qui aurait franchement pu être le sujet par lequel on aurait commencé. Bon, on en avait parlé la semaine dernière, donc je ne voulais pas vous en asséner encore des tonnes sur la tête, mais j'avoue que j'ai rarement vu, peut-être même jamais vu, un sujet tech qui, pour le coup, est à l'intersection de la tech, de la politique, de la politique surtout, et puis de la politique internationale et de l'actualité. Et j'ai rarement vu un sujet qui faisait autant de bruit. J'ai mis, ne serait-ce que dans les notes de l'émission, peut-être une cinquantaine d'articles en une semaine sur ce sujet, et tout le monde y va de son analyse, de son explication, de ses découvertes. Et j'avoue que c'est évidemment propice vu le sujet et vu le contexte, mais je suis quand même un petit peu surpris, ou peut-être que je ne suis pas surpris, je sais pas, de l'ampleur que c'est en train de prendre. J'ai presque envie de dire, c'est pas une surprise, mais c'est genre, bon, ça y est, là, ce qu'on attendait plus ou moins est en train d'arriver. Je vais résumer très très rapidement pour ceux qui n'ont pas suivi l'épisode de la semaine dernière. En fait, il y a, je grossis énormément le trait, mais il y a une société anglaise, Cambridge Analytica, qui a obtenu des données de plusieurs dizaines, centaines de milliers d'utilisateurs Facebook, et par ces utilisateurs, c'était il y a plusieurs années déjà, ils ont eu les données également de leurs amis. Et donc, ils ont pu construire des profils sur 50 millions de personnes, et donc construire des profils pour cibler les utilisateurs Facebook pour des messages, tout type de messages, dont des messages politiques, qui ont été utilisés par les campagnes, a priori, par les campagnes du Brexit et la campagne de Donald Trump, et possiblement, ça reste à prouver, par les services russes, pour faire leur travail de sape, de trollage et de désinformation, là aussi, dans ces deux campagnes politiques. Et bien sûr, vous savez qu'ils ont essayé de le faire en France au moment de notre campagne présidentielle d'il y a 2 ans maintenant, sans succès, ou du moins sans gros succès. La chose à retenir, c'est que, en 2014, je crois, Facebook a désactivé. D'une part, ils avaient autorisé la captation de ces données pour des raisons de recherche. Il se trouve que Cambridge Analytica a utilisé ces données pour autre chose que de la recherche. Donc, Facebook leur a demandé de les supprimer immédiatement. Et à la suite de ça, Facebook a pris des mesures pour que ce type de captage de données ne soit plus possible, à savoir les données qui sont captées sont celles d'un utilisateur qui a autorisé l'accès à ces données, mais pas de ses contacts. Donc on ne peut pas avoir ce captage de données exponentiel où avec 120 ou 150 000 utilisateurs qui utilisent votre app, vous allez capter les données de 50 millions d'utilisateurs. Aujourd'hui, c'est plus possible et depuis plusieurs années, c'est plus possible. Voilà pour ce qui s'est passé là en résumé rapide. Maintenant, pour ce qui s'est passé depuis la semaine dernière, bien sûr, l'ensemble du monde politique et des médias attendait et exigeait que Mark Zuckerberg donne des explications sur toute cette affaire. Suite aux révélations du lanceur d'alerte qui est sorti du bois la semaine dernière, et c'est pour ça que cette affaire et que cette société de Cambridge Analytica sont revenus sous le feu des projecteurs alors qu'on en parlait depuis longtemps. Il y avait d'ailleurs des enquêtes, notamment de la BBC, si je ne m'abuse, mais enfin des enquêtes qui étaient sorties il y a plusieurs mois de ça. Mais Mark Zuckerberg a fini par faire une déclaration qui n'a pas du tout satisfait, enfin qui n'a satisfait personne, j'ai envie de dire, j'ai presque dit pas grand monde, mais qui n'a satisfait personne. En gros, il dit ce qui est frustrant pour les observateurs en général, le sentiment qu'on retrouve, c'est que ils ont l'impression que Zuckerberg ne s'est pas excusé clairement. Et bon, il y a sans doute du vrai dans la chose. Ce qu'il dit, c'est qu'ils ont fait des grosses erreurs en construisant leur plateforme, qu'ils vont essayer de corriger la chose, que ça va pas être facile, que ça va coûter beaucoup d'argent et prendre beaucoup de temps. Et moi, ce que je note, c'est qu'effectivement, il s'est pas platement excusé, clairement excusé. Par contre, il a reconnu qu'ils ont fait des erreurs et surtout, ils ont dit qu'il était peut-être nécessaire qu'il soit régulé, qu'il soit que la gestion des données privées soit légiférée, ce qui est pas tellement surprenant pour nous en Europe parce que on est très à cheval sur la gestion des données privées et on a d'ailleurs on en parlait il y a pas longtemps les lois européennes et la GDPR, je vais jamais y arriver, qui régit, donc c'est un petit peu bah voilà, nous on s'y est attelé il y a un moment et peut-être qu'il faudra en faire plus, mais aux États-Unis c'est un changement radical d'optique. On a vu donc Zuckerberg qui lui-même dit bah peut-être que la régulation est pas une mauvaise chose, peut-être qu'il faut légiférer. On a vu Tim Cook qui dit également que des lois sur les données privées seraient peut-être nécessaires. Bon, c'est un petit peu amusant de voir Tim Cook dire ça parce que Apple est sans doute le seul des GAFAM c'est celui des GAFAM qui repose le moins sur les données privées. Donc forcément, il a beau jeu de dire ça. Mais il n'empêche, on a différents comités qui ont demandé à Zuckerberg et à d'autres responsables de la tech de venir témoigner devant les comités. Enfin, on a vraiment un mouvement et j'ai l'impression une prise de conscience importante dans ce domaine d'une manière que je n'ai jamais vue avant. Quelle est ton impression sur tout ça, toi, Benoît ? Est-ce que on est vraiment à un moment où les choses sont en train de changer dans les yeux du public et dans les têtes des hommes politiques ? Ou est-ce que ça va se passer comme tout se passe ?
Ouais, bon, moi déjà, je me réjouissais de la campagne présidentielle de Mark Zuckerberg, donc je suis un peu déçu parce que je pense que ça va repousser de quelques années. Donc,
ouais, là, c'est un peu foutu pour la prochaine élection, c'est sûr.
Voilà, bon, on aura Oprah, c'est bien aussi. Mais non, ce qu'on voit clairement, c'est qu'on est un petit peu dans ce moment où on capture l'imagination. Hein, parce que, comme tu disais à un moment, pour ceux qui suivent ce type de sujet, c'est pas une surprise. Moi, j'ai rien appris. On s'est pas dit, ah mon Dieu, ils prennent nos données, ils prennent même nos SMS. Tout ça, on le savait, je veux dire, si c'était pas quelque chose qui était une opération cachée, qu'il y a des gens qui abusaient du système et qui créaient le graphe social avec un petit peu la complaisance de Facebook, on le savait. Donc, c'est
mais
vrai.
Tu sais, excuse-moi, ouais. Je t'interromps un instant parce que c'est un sentiment que j'ai entendu à différentes reprises et de la part de différentes personnes. Et moi, je suis pas tout à fait d'accord. Tu sais. On savait effectivement qu'il y avait des gens qui utilisaient ces données. Il y avait plein de gens, c'est clair, qui essayaient de prévenir le public en disant attention, les données captées, c'est pas innocent, ça peut être utilisé. Mais la plupart des avertissements étaient ah bah regardez, il y a des publicitaires qui vont vous cibler. Tu vois, on pensait à de la publicité. À la limite. On pouvait penser à des hommes politiques qui allaient cibler leur messages publicitaires de différentes manières en fonction des données qu'ils ont. Mais on n'avait pas vraiment compris, et même les gens qui prévenaient et qui disaient « attention, ça va mal se passer », n'avaient pas compris qu'on pourrait cibler à ce point précisément et avec de la désinformation aussi violente. Parce qu'il y a une différence entre dire « je vais réduire les taxes » et je vais augmenter vos revenus, ce que tous les hommes politiques de toute l'histoire ont toujours dit, et femmes politiques aussi, et faire pousser des messages à la fois à ce point faux, et c'est vraiment de la désinformation militaire presque. Et en plus de ça, ce que je voudrais dire, et qui est important, c'est qu'on a également l'implication d'une nation étrangère qui a manipulé des élections à plusieurs reprises dans d'autres pays. Donc, c'est pas juste « attention, on utilise vos données pour vous faire de la pub ». Et c'est ça la chose que brandissaient les gens qui voulaient prévenir sur le danger de l'utilisation des données. Tu vois, ils disaient « attention, vous êtes un produit, vous êtes commercialisé, c'est capitalisme débridé, etc. » et je vais juste finir sur ces deux choses… Ce que les gens, je pense, sont toujours prêts à accepter, tu vois, c'est pas ça qui dérange les gens. C'est cette utilisation militaire des données qui est beaucoup plus préoccupante. Et en plus de ça, admettons même qu'il l'ait dit, c'est comme une bombe atomique. C'est la comparaison que je prenais, je sais plus si c'était sur Slack ou sur Twitter avec les auditeurs avec qui on en parlait. Une bombe atomique, tu peux savoir que c'est possible techniquement et que peut-être que les militaires sont en train de travailler dessus, etc. Le jour où elle est lâchée sur Hiroshima ou Nagasaki, eh ben ça change les choses. Tu peux le savoir que c'est possible, mais il y a 1000 choses qui sont possibles, il y a 10 000 choses qui sont possibles, il y a 10 000 avertissements qu'on donne tous les jours. Le jour où ça arrive effectivement, eh ben c'est normal que à ce moment les réactions changent. C'est à la limite, comme tu disais, quand on parlait de véhicules autonomes et de l'évolution de la technologie et de l'aviation, etc. C'est en essayant et avec des problèmes qu'on constate qu'on va prendre les mesures qu'il faut pour, je l'espère, corriger ces problèmes. Donc, tu vois, c'est juste, c'est un long laïus pour dire, les gens qui disent « Ah mais ouais, mais on l'avait dit, ah mais ouais, mais on le savait », oui, ok, mais quand même, remettons les choses dans le contexte. C'est une chose que je voulais préciser.
Alors moi, je vais te répondre avec un mot. Palantir. Donc Palantir, c'est cette société américaine dont on connaît également, qui se spécialisait justement dans tout ce qui est le traitement des données à des fins sécurité, militaire, etc. Et ils utilisent le même type de données. Alors, ils font des choses intéressantes, tentatives de prédiction de crimes, typiquement, qui est quelque chose de décrié parce qu'on connaît que les algorithmes peuvent avoir des tendances, disons, à du profilage pas tout à fait, pas tout
moral,
à fait voulu. Mais on sait que ce type de société existe depuis longtemps et qu'elles font un usage intensif des données, exactement comme Cambridge Analytica l'ont fait. Donc, c'est là, en ce sens-là, que je veux dire que c'est pas nous. Et que c'est pas, voilà, à part ce qui dérange maintenant, c'est qu'évidemment c'est utilisé par une puissance étrangère, mais et j'aime bien des fois aller voir aussi ce que dit Fox News par exemple, qui est plutôt donc côté républicain, même voire très républicain. Donc quand Obama gagne sa campagne parce qu'il utilise ce type de données, c'est un génie. Et puis quand nous on le fait, c'est un crime. Alors évidemment, il y a un petit peu de mauvaise foi parce que je te rejoins sur le fait.
Un petit peu, oui. comme souvent sur Fox News, c'est des monceaux de mauvaise foi, oui.
Oui, mais je pense pas dans l'autre sens. Je pense que c'est pas non plus qu'ils ont utilisé les données, les démocrates utilisent les données uniquement de manière pure et dans le cadre de la loi, parce que c'est des zones grises. Donc, de toute manière, il y a une sorte de prime à celui qui va le pousser. Donc, je pense que c'est bien, effectivement, qu'on arrive maintenant à définir comme l'Europe l'a fait. Et pour une fois, c'est assez rare, mais je pense qu'effectivement, l'Europe a vraiment montré le chemin de dire exactement quelles sont ses limites, à quel point il faut informer les gens, est-ce qu'on a le droit de changer ce qu'une société sait sur nous ou de l'effacer, etc. C'est bien que ça arrive aux États-Unis. Je suis pas surpris, toi, on disait, c'est toujours un peu les mêmes suspects, c'est Uber, c'est Facebook, c'est quand même ces sociétés qui ont une méchante tendance à toujours, toujours, toujours vouloir aller pousser. Et donc, si on prend l'exemple de Facebook, comme ils ont traité leurs partenaires de la presse, typiquement, c'est un peu la même éthique, je trouve, quoi. Donc,
Justement, tiens, on peut parler de Facebook et de ce sentiment anti-Facebook qui est évoqué ici et là. On a vu que sur Elon Musk, Twitter a fait une sorte de jeu, enfin pas de jeu, mais on l'a. Il disait, Facebook, c'est bon, je delete Facebook, et il a même supprimé ses pages Facebook pour SpaceX et Tesla. Etc., etc. On a l'impression que certaines personnes se disent, ce coup-ci, c'est bon, tout le monde va supprimer Facebook et c'est le début d'une vague qui va faire que machin. Sauf que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les installations, si on regarde les faits, les installations d'app n'ont pas du tout changé. Les analystes financiers recommandent d'acheter maintenant que la
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Facebook est au plus bas, et d'une manière générale, j'ai l'impression que le grand public n'a aucune intention d'arrêter d'utiliser Facebook. Peut-être qu'il faudrait, mais clairement, même ce scandale ne convainc pas les gens. Et au-delà de ça, je pense, moi, sans vouloir défendre Facebook à tout prix, parce que c'est pas du tout l'intention, moi-même, j'utilise assez peu Facebook, mais sans vouloir défendre Facebook à tout prix, moi, je pense pas que la solution, c'est de supprimer Facebook. Parce que il y aurait... Enfin, on a besoin, je pense qu'il y a quand même des aspects positifs dans tout ça, dans ces réseaux sociaux, et maintenant on est concentré sur les aspects négatifs, mais je pense que même à la fois Facebook, Twitter et d'autres, pour tout ce qu'ils apportent de problèmes, il y a aussi des utilisations qui sont, enfin des choses qu'ils rendent possibles, qui sont positives et nécessaires, je dirais. Donc, si on peut corriger les problèmes, c'est bien, mais on va pas aller jeter le bébé avec l'eau du bain, je pense.
Et puis, je suis 100% d'accord. Je doute qu'il y ait le moindre impact. Ceux qui veulent, qui aiment pas Facebook, qui aiment pas ça, sont déjà plus dessus. Moi, j'ai plus de compte Facebook depuis à peu près 2 ans. Mais pour tous les autres, effectivement, on y trouve son compte. Et puis, les problèmes de Facebook viennent d'ailleurs. C'est le fait qu'il y ait de moins en moins de jeunes qui sont intéressés, qui aillent dessus, etc. Mais c'est en tout cas pas ce scandale-là qui va faire le problème. Et puis, c'est vrai, c'est pas mieux si c'est une autre société. Je pense pas. Je pense Facebook est peut-être. Ils ont cette tendance, disons, à pas faire les choses bien, mais pas non plus. Ça reste une grande société américaine qui a quand même certains cadres.
Ouais. Et puis il y a des gens qui disent peut-être que la solution viendrait de l'extérieur, de l'open source, de projets comme Mastodon ou de ce genre de choses. Et moi là aussi je suis hyper intéressé par ce genre de choses. Malheureusement, on n'a pas réussi à trouver de formule qui fonctionne et qui fonctionne mieux que ce qu'on a réussi à créer avec les startups de la Silicon Valley. Donc continuons à essayer, hein. Peut-être qu'un jour on aura une formule open source et beaucoup plus fiable qui fonctionnera. Donc il faut surtout évidemment continuer à essayer et pas dire non ça marchera jamais. Mais par contre, bon, si on est réaliste, aujourd'hui on n'est pas dans un contexte où on peut imaginer que ce genre de solution soit viable au moins sur le court terme. Mais peut-être que ça arrivera.
Oui, et puis quand on voit le décentralisé, on a encore un très long chemin à faire avant qu'on comprenne comment gérer ça. Si on regarde les cryptos en ce moment, on voit que on sait pas quoi en faire pour le moment en termes de gestion humaine. Donc je suis d'accord, je te rejoins complètement sur ce point.
Et peut-être que on est dans les tout débuts des crypto monnaies et de la blockchain, etc. Et comme on le dit parfois dans l'émission, les versions ou les améliorations amèneront une perfection de ces systèmes qui feront qu'ils seront plus utilisables. Mais encore une fois, on n'y est pas encore. On voulait évoquer rapidement deux lois qui sont passées aux États-Unis quand on parle du contexte de l'augmentation des contrôles sur les sociétés. Il y a deux lois, le Cloud Act et le Stop Enabling Sex Traffickers Act, qui sont préoccupantes. Autant les lois en Europe, j'ai l'impression qu'on les fait plutôt pas mal, avec plus de bon côté que de côté négatif. Autant là, ces deux lois, elles me mettent des gros points d'interrogation. Le Cloud Act, c'est une loi qui autorise les organismes de policiers américains à aller réclamer des informations sur des serveurs qui sont situés dans d'autres pays. On se souvient que Microsoft avait était en train de se battre contre une demande des forces de l'ordre américaines pour livrer des données sur un citoyen américain, mais des données qui étaient hébergées en Irlande. Et en l'occurrence, ça voulait dire que les autorités américaines voulaient contrevenir aux lois irlandaises, puisque les serveurs étaient physiquement là-bas. Et de l'autre côté, il y a donc le Stop Enabling Sex Traffickers Act, qui rend un hébergeur, qui met à mal, en fait, le statut d'hébergeur qui permet à l'Internet d'exister depuis le début de l'Internet. C'est-à-dire que il rend un hébergeur responsable du contenu qui est sur sa plateforme, même quand ce contenu est créé par des utilisateurs. Responsable pénalement. Donc, et c'est en théorie pour éviter le L'esclavage sexuel, donc ça va quand même, c'est très spécifique. Ça veut dire que un site, et c'est le premier à en avoir fait les frais, un site comme Craigslist, qui est un site de petites annonces, a tout simplement supprimé ses petites annonces, ce qu'on appelle les personal ads, donc simplement où on dit je cherche une jeune femme belle qui joue à Mario Kart pour amitié et plus si affinité, belle et intelligente bien sûr, il faut qu'elle soit intelligente aussi. Et donc Craigslist a supprimé tout simplement sa section petites annonces personnelles parce qu'ils disent oui, il y a de la prostitution qui peut avoir lieu. Alors, la question de la prostitution, à la limite, est même pas forcément le problème ici. Mais il peut aussi y avoir des problèmes d'esclavage sexuel. Encore une fois, c'est très spécifique. Et si on est légalement responsable, il faut juste tout supprimer, y compris toutes les petites annonces complètement innocentes. On a vu des subreddits qui ont également dû être supprimés, etc. Et au-delà de ça, Le statut de neutralité de l'hébergeur est hyper important. Si vous avez un forum, vous pouvez pas être responsable des milliers de messages qui sont postés sur ce forum. Alors, si on vous prévient qu'il y a un message, par exemple, qui fait l'apologie du crime ou de la haine raciale, eh ben vous devez le supprimer. Ça, c'était déjà le cas. Mais si vous êtes responsable de ce qui a été posté, que vous le supprimiez ou pas, c'est un gros problème. Idem avec le non-respect de la législation locale là où sont situés les serveurs, parce que oui, ça veut dire que les organismes américains comme le FBI par exemple peuvent demander à Microsoft de leur livrer des informations sur un serveur d'un serveur qui est situé en Irlande, en France, peu importe. Mais ça veut aussi dire du coup que un gouvernement chinois par exemple peut demander des informations sur des serveurs qui sont ailleurs, qui sont situés ailleurs. Ces deux lois risquent d'être mises à mal par les tribunaux, mais elles ont été votées aujourd'hui, quoi.
Ouais, alors moi je suis moins négatif que toi sur ces lois. Alors la première chose, je tire mon chapeau à celui qui a nommé le Cloud Act, parce que cloud, on dit ah ouais c'est cloud, mais ça veut dire Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act. Donc c'est vraiment une excellente
façon. Ils font souvent ça aux US, ouais.
Ah ouais, mais là c'est bien trouvé. Non, bravo. Donc déjà, on félicite. Mais ce qu'il faut voir, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a une idée de faire des négociations internationales autour de l'échange de données. C'est-à-dire que non seulement les États-Unis vont pouvoir les demander à l'Irlande, mais l'Irlande, si ils ont un traité en commun, va pouvoir demander aux États-Unis également des données. Et ça, je trouve que c'est bien. Il faut mettre un cadre à cet échange de données. On les veut au niveau fiscal, ça existe. Pourquoi on ne les voudrait pas pour d'autres domaines? Donc, je pense qu'il y a quelque chose de juste à vouloir créer un cadre international pour l'échange de données. Donc, évidemment, la question se pose, parce que ça va plus loin, ils disent, pour les pays avec qui on n'aurait pas de contrat, on peut dans ce cas-là...
D'accord, oui.
Forcer la main. Bon, alors là, c'est un petit peu différent, mais évidemment, sinon, tout le monde irait dans le pays déciderait de ne pas avoir d'échange. Et on est obligé de faire ça, finalement, pour que la loi continue à avoir un sens. Donc, à voir comment ça va être mis en pratique, mais il me semble qu'il y a quelque chose de quand même assez juste dans celle-là. Et dans l'autre, c'est la même chose. Je pense que, de nouveau, ce côté neutralité de la plateforme, on le comprend, mais il y a aussi un côté de l'effort à faire pour que la plateforme soit saine. Et je trouve que c'est le genre de scénario où on peut demander un effort particulier. De plus en plus, on peut avoir recours à de l'intelligence artificielle. C'est pas parfait, mais je pense que si une société prouve qu'elle a vraiment mis en œuvre des moyens pour éviter des annonces avec du trafic d'êtres humains, par exemple, voilà, ils vont pas être condamnés. C'est pas s'il y a un qui s'échappe, mais si vraiment il y a du laxisme et qu'on fait rien, et là Craigslist était quand même pas le meilleur exemple de société responsable, dans ce cas-là, on risque d'être puni. Donc moi, de nouveau, je trouve que c'est quelque chose de juste. On demande aux plateformes de respecter la loi.
D'accord. Bah écoute, on va voir si les auditeurs sont plutôt de ton avis ou du mien. Peut-être que la vérité est un petit peu au milieu. Peut-être qu'elle est un petit peu plus de ton côté aussi. C'est possible, je l'avoue. Bon bah écoute, on va faire une petite pause avant de passer à nos news et rumeurs qu'on va égrener un petit peu plus rapidement. Et cette petite pause, je vais en profiter pour vous parler de Patreon. Si vous ne connaissez pas Patreon, vous manquez quelque chose. Et ce que vous manquez, c'est la fierté, la joie, le bonheur de pouvoir soutenir cette émission que vous appréciez, qui vous apporte peut-être des clarifications sur des sujets qui vous intéressent, qui vous apporte un bon moment passé ensemble, qui vous donne un petit peu de quelque chose à vous mettre dans les oreilles pendant que vous êtes dans les transports ou pendant que vous faites du sport. Eh ben, si on vous apporte quelque chose, vous pouvez soutenir financièrement l'émission sur Patreon. Vous pouvez choisir de donner le montant que vous voulez. Ça peut être un petit dollar par épisode parce que c'est aux États-Unis, donc un petit dollar qui équivaut à peu près à un euro. Ça peut être pour la durée que vous voulez. Hein, c'est vraiment vous qui êtes maître et maîtresse de ce que vous voulez faire. Vous pouvez vous arrêter quand vous voulez et chaque euro compte pour financer l'émission. C'est évidemment quelque chose qui me fait incroyablement plaisir et qui prouve la santé de ce business model, de ce modèle d'affaires où le contenu et les auditeurs se retrouvent. Et justement, en parlant d'auditeurs, j'aimerais remercier tout particulièrement aujourd'hui certains d'entre vous qui ont choisi de soutenir l'émission. Plume PJ, Sam Tebaris, Thierry Engel, Xavier Fabre, Sébastien, Simon Tanguy, Loéac, Juliane Arevalo, pardon, Alexis Agaï, Terry Quirk et Patrice Rudman. Merci à vous tous et merci à tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission. J'espère que vous êtes hyper contents et fiers de voir cette émission arriver toutes les semaines dans votre lecteur de podcast parce que c'est grâce à vous qu'elle existe. On continue donc avec les news et rumeurs et ce soir, quand vous écouterez l'émission, ça sera peut-être déjà passé, il y a un petit événement Apple centré sur l'éducation où on pense qu'on va voir arriver un nouvel iPad pas bas de gamme, mais enfin bon marché, peut-être sans doute moins de $300, avec peut-être une compatibilité sous une certaine forme avec l'Apple Pencil qui permettrait, avec sans doute d'autres annonces, qui permettrait une utilisation dans les classes, dans les écoles, beaucoup plus poussée. Alors on sait que Apple se bat avec Google depuis un certain nombre d'années déjà, puisque pour tout un tas de raisons, les Chromebooks de Google ont le vent en poupe dans les écoles, et que bien sûr, quand on parle d'école, c'est pas juste pour parler d'écoliers, c'est aussi pour donner les bonnes habitudes aux jeunes qui continueront à utiliser nos produits quand ils auront un petit peu plus d'argent. Donc évidemment, le champ de bataille de l'éducation est important pour ces sociétés et les Chromebooks et Google sont clairement en train de gagner la bataille aujourd'hui. Est-ce que tu vois, toi, arriver un iPad bon marché et que ça serait le produit que propose Apple pour l'éducation ? Ça serait l'iPad ? C'est quand même... moi, je trouve ça un petit peu compliqué. C'est pas aussi polyvalent qu'un Chromebook. C'est plus compliqué à gérer pour les administrateurs. Enfin, je
ouais.
sais pas.
Et je pense que c'est typiquement, c'est pas le genre de produit, on peut dire, voilà, maintenant, pof, vous avez du hardware et tout va bien, utilisez le Google. Typiquement, ils ont Google for Education, c'est une division. Hein. Il y a du monde, ils vont dans les écoles, ils expliquent, ils apprennent. Donc,
oui, et puis ils développent, il y a ces Classroom, ouais. je crois, la suite de Google logiciel, quoi, qui fait que c'est plus facile à utiliser. Et puis, les produits ouais. évoluent avec le web. Matériellement, un iPad, au bout de 3 ans, bon, tu commences à plus être trop... tu peux l'utiliser pendant 5-6 ans, mais le Chromebook, il utilise le web, donc les évolutions logicielles et matérielles sont moins importantes ou plus importantes sur le truc, quoi.
Non, effectivement, donc je pense que c'est intéressant d'avoir un iPad low cost. Est-ce que c'est vraiment pour le marché des écoles où ils vont réussir à reprendre des parts de marché? Je suis pas convaincu non plus, mais pourquoi pas. Moi, ça fait, j'ai pas d'intérêt à avoir une tablette, mais peut-être que si effectivement elle devient un bon marché, c'est mieux que d'avoir des magazines aux toilettes. Donc, on peut laisser. Voilà, c'est très bien.
Oui, il n'est pas impossible qu'effectivement cette annonce se fasse dans le cadre de l'éducation, mais que concrètement ça soit juste un iPad low cost avec une compatibilité Apple Pencil sous une forme ou une autre qui pourrait, avec différents logiciels, être intéressante. Bon, moi j'en attends pas non plus des folies. Je serais presque plus intéressé par les rumeurs de ce nouveau MacBook d'entrée de gamme qui viendrait remplacer le MacBook Air, dont le design est un petit peu vieillissant, que par cet iPad qui, moi, j'adore mon iPad, hein, je précise, mais dans le contexte de l'éducation, je suis pas sûr que ça soit adapté. Foxconn, ce constructeur qui justement fabrique énormément de matériel pour Apple et pour d'autres marques de tech, c'est une énorme société chinoise, mais il faisait surtout du B2B. Jusqu'à maintenant, il travaillait avec des sociétés tech pour leur construire leurs téléphones, leurs ordinateurs, etc. Eh bien, ils viennent de racheter Belkin pour presque $1 milliard, et Belkin, c'est un constructeur qui fait des accessoires principalement pour mobile et pour ordinateur aussi. Et ils ont aussi Linksys qui fait énormément de routeurs et de choses comme ça. C'est plusieurs sociétés dans l'escarcelle de Belkin. Et donc, ils ont été rachetés par Foxconn. Et là, c'est intriguant parce que j'ai cherché un petit peu si Foxconn faisait déjà du matériel pour les consommateurs directement, et j'ai pas l'impression, et donc ça serait la première fois que Foxconn s'intéresse aux consommateurs au direct. Est-ce que ça veut dire que Foxconn, maintenant qu'ils ont acquis un énorme savoir-faire et qu'ils sont devenus un énorme mastodonte de l'industrie tech, est-ce qu'ils sont en train d'essayer de mettre le petit doigt dans l'eau du marché des consommateurs? Je suis curieux.
C'est une super bonne question. Moi, ce que m'a beaucoup intéressé dans cette histoire, c'est que bon, ils vont payer un peu moins $1 milliard, hein, pour tout ça. Donc, au niveau de Foxconn, c'est beaucoup d'argent, mais enfin, au niveau de Foxconn, c'est gérable. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est est-ce que l'administration américaine va accepter ce deal? Et ça, sincèrement, quand on voit ce qui est arrivé à Huawei, avec ses téléphones, j'ai quand même un doute.
Oui, ils sont en train de se faire interdire un petit peu partout, et Linksys, c'est des routeurs, et les routeurs, c'est toujours un gros point d'achoppement pour ce genre de choses, effectivement. Les voir passer sous l'escarcelle de la Chine, ça pose plein de questions.
J'ai un gros doute à ce niveau-là. En même temps, Foxconn a annoncé qu'ils voulaient investir, je crois, une dizaine de milliards, hein, pour montrer un petit peu quand ils investissent, comme ils investissent, dans une usine dans le Wisconsin. Alors, est-ce que ça fait partie d'une sorte de stratégie du tout? Peut-être simplement aussi qu'ils ont vu que c'est des sociétés qui voulaient tenir à flot, parce que de ce que je comprends, ils vont garder le management tel quel. Donc peut-être que pour eux, c'est juste une façon de se dire, c'est un bon client. Oui. Donc, il y a beaucoup de choses potentielles là-dedans. C'est une nouvelle très intéressante, j'ai trouvé.
Oculus Go, on en a parlé et on en parle depuis un bon moment. C'est la version légère du casque de réalité virtuelle de Facebook, justement, enfin d'Oculus, qui appartient à Facebook, on le sait, qui sera annoncé dans une semaine ou deux. Non, je dis une bêtise, c'est quand déjà la conférence F8? Je sais plus. Mais très bientôt... donc qui sera disponible après cette conférence. Et donc elle a été testée, ce casque par différentes sociétés, par différents titres de presse, et les retours sont plutôt bons. C'est un petit peu à mi-chemin entre un téléphone qu'on met dans un boîtier et une vraie expérience de réalité virtuelle. Là où il y a une relativement bonne surprise, c'est que la télécommande du Oculus Go est un petit peu meilleure que ce qu'on pouvait attendre. C'est pas une télécommande comme on peut la voir sur l'Oculus classique, avec les touches qui vont modéliser vos mains dans l'univers virtuel, ce qui pour moi est vraiment c'est vraiment le gros effet waouh qu'on peut, on peut avoir ses mains, on peut attraper des choses. Mais là, on est un petit peu à mi-chemin selon les premières impressions. Plus ça va, plus moi je pense que ça va pas être non plus complètement la révolution de la réalité virtuelle qui va arriver partout, mais ça va être une bonne première étape qui va populariser un petit peu la réalité virtuelle. Dernière note, le son est pas mauvais, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'écouteurs, mais il y a une sorte de conduction qui vous amène le son aux oreilles sans gêner les autres. Donc c'est encore une fois, mais ne serait-ce que dans le form factor, c'est un objet parfait, parce que vous avez juste à le mettre sur la tête, prendre la télécommande et vous êtes parti. Et l'expérience est satisfaisante. Donc bon, à voir, mais encore une fois, les indicateurs sont plutôt au vert pour ce pour cet appareil.
C'est ce que je me disais, j'étais dans l'avion avec alors avec Anna, donc c'est la société japonaise hein, que je recommande d'ailleurs, et ils te donnent une sorte de casque suppresseur de bruit, je sais pas comment on dit, noise cancelling hein. Mm-hmm. Donc déjà c'est sympa, donc c'est un peu moins de bruit, mais là ça serait sympa d'avoir de la réalité virtuelle comme ça. Je verrais bien si les casques deviennent pas chers et qui sont de bonne qualité, qui te donnent ton casque anti-bruit la réalité virtuelle. Ouais. Je pourrais faire que... 12 heures d'avion quand vous voulez, quoi.
Ne serait-ce que pour regarder vos films tranquillement sur votre casque de réalité virtuelle. On sait qu'il y a eu différents produits, même des casques spécifiquement faits pour ça, pour les films. Mais dans le cadre de la réalité virtuelle, ça pourrait être sympa, effectivement. Oui.
Pardon.
Excusez-moi. On parlait... des Chinois, tiens, et de la taille des sociétés. J'aurais peut-être dû mettre cette news juste après celle sur Foxconn. Il y a un investisseur sud-africain qui s'appelle Naspers, à ne pas confondre avec Napsters, qui a revendu une partie de l'argent qu'ils avaient investi dans Tencent. Et c'est juste pour vous donner une petite idée de la taille que représentent toutes ces sociétés. Alors... Tencent, géant de la tech en Chine, ils ont notamment la société QQ, enfin bon, c'est un géant de la tech, il y en a quelques-uns, mais de la tech plutôt service, logiciel, plus que matériel. Tencent, la société Naspers a investi 32 millions de dollars dans Tencent en 2001. Vous savez, en 2001, la Chine, au niveau de l'Internet, c'était un petit peu le désert de Gobi, quoi. Hein. C'était, il y avait rien, il y avait personne sur Internet, c'était inexistant, ou presque. 32 millions de dollars investis en 2001. Aujourd'hui, 17 ans plus tard, Naspers revend 2% de ses actions Tencent. Est-ce que je vais vous donner une seconde pour imaginer à combien ils ont revendu ça. 2% des 32 millions investis il y a 17 ans. Est-ce que tu aurais une idée? Toi, Benoît, je pense que tu vois les notes, mais oui, combien tu aurais dit?
Non, mais j'arrive même pas à croire aux chiffres. Tu te dis, toi, si tu fais fois 100, c'est la fête absolue, tu vois, mais.
Eh ben là, c'est plus. 10 milliards de dollars. 10 ouais. milliards sur les 2% de leurs 32 millions qu'ils ont investis il y a 17 ans. Voilà, c'est une bonne opération, mais surtout au-delà du chiffre, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir à quel point ces sociétés chinoises sont monumentales. Et je crois que on a aujourd'hui, bon, les plus grosses sociétés du monde sont américaines, hein, c'est les GAFAM, tout simplement, elles sont parmi les plus grosses sociétés du monde. Mais je crois qu'on se rend pas compte, et on le dit parfois dans cette émission, donc peut-être qu'on finit par s'en rendre compte, mais je pense que la plupart des gens se rendent pas compte à quel point la Chine est en train de venir dévorer, mais enfin est en train de prendre un poids, y compris dans la tech monumentale, et c'est quelque chose qui joue dans la balance géopolitique mondiale, quoi. Donc bon, voilà, c'était à noter. 10 milliards.
Wow.
Deux sociétés qui sont également entrées en bourse, c'est notable parce que ces deux sociétés dont on parle depuis des années et des années, c'est Dropbox et Spotify qui ont réussi leur entrée en bourse. Deux sociétés qui étaient un petit peu les porte-étendards de la tech nouvelle génération. Ils ont attendu un bon moment avant d'entrer en bourse, mais finalement c'est fait et ça s'est bien passé pour eux. On va dire tant mieux. Mais en même temps, généralement, quand l'entrée en bourse est faite, ben il y a une sorte de sagesse bienvenue peut-être qui s'abat sur les sociétés. Et surtout, j'ai l'impression qu'elles deviennent plus que sagesse de paresse. Moi, j'ai l'impression. On arrête un petit peu d'innover quand on entre en bourse. Donc bon, je sais pas si ça sera le cas, mais en même temps, je dis ça, mais les géants des GAFAM, ils continuent parfois à innover. Donc peut-être que ça continuera. Je sais pas.
Ce qui est génial dans ces deux sociétés, c'est que c'était typiquement le genre de business model où tout le monde se disait « mais c'est pourri, attends, du storage en ligne et de la musique, le truc qui n'avait jamais marché ». Enfin, les deux, je voyais beaucoup, beaucoup de gens, et moi-même inclus, j'en suis sûr, on pourrait retrouver des émissions où je disais « non mais oublie quoi, c'est sympa, c'est joli, mais non ».
Donc voilà. D'ailleurs, bravo. On se souvient que Dropbox avait, enfin Steve Jobs avait voulu acheter Dropbox et ils avaient reçu le président, je suis désolé, je ne me souviens plus de son nom, mais et il lui avait dit, mais enfin, ta société c'est un service, c'est pas une société, donc il vaut mieux venez chez Apple, voilà, vous allez faire partie d'un truc un petit peu plus gros et un peu plus sérieux. Et le président justement avait été bien inspiré. Il avait dit non, mais bon, c'est pas nous. On a des ambitions et voilà. Il a dit non à Steve Jobs, quoi. Donc et ça lui a bien réussi puisque aujourd'hui la société vaut 11 milliards. Ils avaient levé 750 millions et ils valent aujourd'hui 11 milliards. Donc pas mal.
Joli.
Parlons de taxes enfin en Europe. On dit depuis tout à l'heure les Européens on sait bien faire les choses. Eh bien la taxe des GAFAM, donc qu'on avait évoqué l'épisode précédent ou celui d'avant encore, se fera bien a priori à 3%. On avait évoqué une taxe sur le chiffre d'affaires qui irait entre 2 et 5% ou 6%. Eh bien finalement ça sera 3% et ça sera une taxe en deux temps. Elle sera aujourd'hui appliquée aux sociétés qui ont un revenu global qui dépasse 750 millions de dollars. Donc on parle évidemment de Google, Facebook, Amazon, etc. Et c'est une taxe qui se fera donc au niveau européen sur les revenus des sociétés. Pardon, je dis au niveau européen, mais peut-être que ça se fera sur les revenus locaux. Donc chaque pays pourra réclamer cet argent aux différentes sociétés de la tech. L'idée étant, comme on le disait, de les empêcher d'optimiser pour les bénéfices et donc de faire des bénéfices dans un pays où ils ne vendent pas leurs produits ou leurs services. Là, ça sera sur le chiffre d'affaires, donc c'est réglé. Dans un deuxième temps, ils voudraient repasser sur les bénéfices, mais les bénéfices localisés sur l'endroit où le chiffre d'affaires est généré. Donc repasser sur le bénéfice, mais quand même empêcher la délocalisation de la taxe sur les bénéfices. C'est-à-dire que de toute façon, si vous générez vos bénéfices en vendant à un citoyen français, bah les bénéfices, même s'ils sont sur le papier générés ailleurs, en Irlande au hasard, et bah il faudra quand même payer en France, puisque le service est vendu à un citoyen français. Ça sera la deuxième étape. Pour le moment, c'est 3% sur le chiffre d'affaires. J'imagine que ça va pas être implémenté tout de suite non plus, mais ça a été décidé. Qu'est-ce que t'en penses, toi, en tant que bon Suisse qui a un rapport particulier avec la taxation?
Ouais, j'ai beaucoup aimé l'enthousiasme avec lequel tu as introduit le sujet. On sent que c'est quelque chose que tu aimes bien. Donc ça fait tellement longtemps qu'on parle. Évidemment, hein, c'est peut-être pas le meilleur système, ça, c'est transitoire, etc. Mais il fallait avancer. Donc voilà, au moins ça a le mérite de poser quelque chose. Mais évidemment, le système va évoluer. Est-ce qu'on peut? C'est toujours compliqué parce que d'un côté on se plaint, on dit il faut le marché unique européen pour être compétitif, il faut faciliter, etc. D'un autre côté, ben il faut quand même c'est des pays l'Europe, hein, c'est pas un seul État.
Un
donc
seul pays,
donc c'est là on voit que ben c'est complexe par nature. Donc disons que j'aurais pas mieux à proposer que ça.
Ouais, c'est un petit peu ça le problème. Même si ça pose effectivement des questions légitimes, on n'a pas une meilleure solution. Donc à un moment, comme je le dis souvent dans l'émission, oui, on peut se poser des questions jusqu'à la fin des temps, mais on peut aussi mourir gelé quand on est en Antarctique et qu'on trouve pas de solution pour se réchauffer. À un moment, il faut faire quelque chose. Cette analogie n'a aucun sens, mais il faut faire quelque chose pour se réchauffer.
Et, on sent le Finlandais qui parle.
Non, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. L'hiver n'en finit plus. Mais tu vois, si on se dit ah bah oui, mais si on allume les bouteilles de gaz méthane, ça risque d'exploser, on va tous mourir. Tu dis oui, peut-être, mais si on ne le fait pas, c'est sûr qu'on va tous mourir de froid. Donc, à un moment, il faut faire quelque chose. Heureusement, je pense que cette taxe de 3% sur les chiffres d'affaires n'est pas aussi dangereuse que le gaz méthane à côté des flammes. Donc, je pense qu'on est quand même dans un cadre plus raisonnable.
Après, il y a quand même une question en termes de protectionnisme, de voir à quel point, parce que là, on dit les sociétés de plus de 750 millions, soit donc évidemment les sociétés américaines. Et dans cette espèce de guerre commerciale qui se développe en ce moment, il faudra voir comment c'est reçu à Washington. S'ils disent oui, ben voilà, c'est normal, parce qu'au final, le but de Washington, c'est quand même que ces sociétés rapatrient leurs bénéfices. Donc plus elles font de bénéfices, ben, mieux c'est pour eux. Donc on est dans une dynamique qui va être intéressante et qui va peut-être s'inscrire dans quelque chose de plus global. Le timing, ça aurait été peut-être mieux d'avoir réussi à faire ça il y a un an. On verra.
Effectivement. Bon, on verra. On pourrait en discuter plus longtemps. Je voudrais conclure en mentionnant le fait qu'on a eu énormément de commentaires sur la question de des connexions Internet et des vitesses des connexions Internet. On évoquait au dernier épisode le fait que l'essentiel de la France, la majorité du pays, est quand même toujours connecté uniquement en ADSL, voire en VDSL, qui est quand même pas mal, mais plus limité, en ADSL souvent. Alors, deux choses qu'on m'a fait remarquer. D'une part, la DSL suffit à regarder Netflix et Netflix même en HD. Donc, à vrai dire, je suis tellement loin de ces choses-là, je découvre, comme me l'ont fait remarquer beaucoup d'auditeurs, je découvre le vrai monde. Je ne me souvenais pas que Netflix marchait en HD correctement en ADSL. Et d'autre part, il y a plein de gens qui disaient bah oui, mais moi j'ai simplement pas besoin de plus que la DSL. Il y a plusieurs personnes qui ont accès à de la fibre et qui disent bon, pour différentes raisons, oui, idéalement j'aimerais bien l'avoir, mais soit c'est un peu plus cher, soit je veux pas travailler avec cette société là, soit pour différentes raisons, moi je suis pas trop mal avec la DSL. Et j'avoue que là c'est la grande incompréhension de mon côté, parce que moi, si je peux avoir la fibre, évidemment, je suis prêt à sacrifier beaucoup de choses pour pouvoir avoir la fibre, mais j'ai peut-être une utilisation un petit peu plus poussée du net, quoi.
Ah, pour moi, c'est même, je choisirais où j'habite en fonction. Si on me dit dans ce quartier, il y a pas de fibre, c'est ADSL. Après, je comprends. Hein, plus on s'éloigne, si on veut vivre tranquille à la campagne, voilà. Bon, ok. Mais ouais, écoute, j'ai même dû rechercher ce que ça voulait dire. Je me souviens, je sais que la DSL ça existait et j'apprends que ça existe encore. Donc voilà, courage à vous tous qui en faites partie. Et si vous en êtes satisfait, eh ben c'est le plus important. Mais waouh.
Mais je crois que, tu sais, je crois qu'il y a un élément de quand on n'a pas encore essayé quelque chose de mieux, on s'accommode de ce qu'on a. Mais je pense que un certain nombre des auditeurs qui me disent qu'ils s'en accommodent parfaitement bien, je pense aussi que s'ils avaient la fibre pendant quelques mois, ça serait compliqué ensuite. Bien sûr, on pourrait être forcé pour différentes raisons, mais ça serait compliqué d'être satisfait de la DSL. Donc, c'est l'un de ces trucs où je crois qu'il vaut mieux pas le prendre si on a un risque de devoir le perdre un petit peu plus tard. Mais Donc, voilà pour les commentaires sur ce sujet de l'épisode précédent. Merci à vous tous qui avez laissé des commentaires sur frenchspin.fr. Bah merci aussi et surtout à toi, Benoît, de m'avoir accompagné dans cet épisode. Est-ce que tu peux dire aux auditeurs où ils peuvent te retrouver s'ils en veulent un petit peu plus, s'ils veulent entendre ta voix ou lire ta sagesse un petit peu plus après l'émission?
Voilà, alors pour les commentaires, remarques, retours, @bcurdy sur Twitter, c'est le plus simple. Et puis nos émissions, alors Niptech, on était toutes les semaines, on a fait l'inverse de toi, on est passé chaque deux semaines. Là, je dois dire, on peine un petit peu parce qu'entre Mike et moi, on voyage à peu près tout le temps depuis quelques temps, mais Niptech est toujours là, niptech.com, et on va reprendre un rythme, voilà. Je pense qu'on va moins voyager, j'espère en tout cas, qu'on va pouvoir retourner aux deux semaines, donc c'est avec plaisir qu'on vous retrouve également là.
Merci à toi, le lien vers le Twitter sera dans les notes de l'émission évidemment. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter et sur Facebook aussi. Oui, oui, je suis quand même sur Facebook, même si je l'utilise moins personnellement. Et vous pouvez
fais-nous
aussi...
Fais-nous Elon Musk, fais-nous comme Elon Musk. Vas-y, tu peux le faire, Patrick.
Non,
dis-nous
mais
aujourd'hui.
Je n'en ai pas l'intention, tu vois, mon utilisation de Facebook est très
Elon
limitée.
Trouve ton Elon intérieur.
Donc, je ne fais pas les quiz pour savoir quelle princesse Disney je suis, donc ça va, il n'y a pas de problème pour moi. Vous pouvez aussi retrouver cette émission émission sur frenchspin.fr où vous pouvez commenter sur l'article de cet épisode ou par exemple écouter le rendez-vous jeu. Vous pouvez écouter le rendez-vous jeu dans votre app de podcast en allant chercher tout de suite le rendez-vous jeu sur votre app de podcast et en vous abonnant si vous voulez suivre toute l'actualité du jeu vidéo aussi. Et si vous voulez soutenir l'émission, vous savez que vous pouvez le faire sur Patreon, patreon.com/rdvtech. C'est très simple, vous vous abonnez en 2 minutes montre en main, vous pouvez donner un petit dollar, 2 petits dollars, 3 petits dollars par épisode, vous pouvez choisir le nombre d'épisodes que vous allez soutenir par mois. Généralement je dis 2 ou 3, bon idéalement tous les épisodes, hein. Mais si vous pouvez pas, 2 ou 3 épisodes c'est pas mal, ça donne aussi droit aux récompenses. Et puis si vous pouvez vous arrêter quand vous voulez, hein, ça vous le savez, sur Patreon. Donc, n'hésitez pas à aller le faire si vous voulez soutenir l'émission, ça prend 2 minutes. Vous pouvez aussi aller sur iTunes pour laisser des notes et des commentaires ou même plus simplement partager cette émission avec vos amis, vos collègues, dire « Ah bah oui, il y a des sujets hyper intéressants qui sont vachement bien traités sur le rendez-vous tech, tu devrais écouter » ou le dire sur les réseaux sociaux, parce que ça, il faut plus de qualité sur les réseaux sociaux. On a assez de trolls et de désinformation, il faut plus de qualité. Et quoi de mieux que de partager le rendez-vous tech, évidemment. Merci à Guillaume et Ced qui ont laissé des commentaires sur iTunes avec 5 étoiles, ça fait très très plaisir. Merci à vous tous de nous écouter, comme toujours, et puis on sera de retour avec normalement l'équipe d'Upload dans une semaine pour un nouvel épisode. On vous remercie et on vous dit à très très vite. Ciao.
Salut.